Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger Chin 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, Chin 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous dans Au cœur de l'islam. Outre les ondes de la radio algérienne, nous sommes également présents sur x.com via la page Au cœur de l'islam, chaîne 3. Et nous sommes toujours en campagne pour le jaillissement de la vérité, du bon sens, car le bon droit est en train de s'effilocher. Il a peut-être même quitté les lieux, comme c'est le cas d'ailleurs pour le droit international qui est bafoué tous les jours un peu plus par ceux qui se réclament et martèlent qu'ils sont Cheikh Al-Mukhtar. Et oui, ceux-là même et leurs acolytes qui s'arrogent le droit de faire tout ce qui leur plaît sans respecter la règle de droit. Oui. Et Dieu, dans son livre saint, décrit leur couardise. Aussi, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana. Salam alaykum Kamal Shekat.
Derrière des bastions, absolument. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez, je voudrais juste signaler une chose.
Oui, monsieur.
Nous n'avons aucun doute que la famille de Imran, alayhi salam, que la famille de Jacob et les grands noms du monothéisme tels que Sidna Moussa, Sidna Issa font tous partie, font partie du peuple élu de Dieu. Mais cette vermine, cette racaille qui est là et qui n'est même pas sémite, quand vous prenez certains noms, nous savons, nous connaissons vos origines, nous savons d'où vous venez. Vous êtes des adorateurs d'Iblis, alayhi lana. Donc, cela, vous n'avez rien à voir avec ces gens-là.
Venus directement de l'Europe de l'Est, comme
oui.
Leur nom, leur patronyme.
Les Qajar.
Les Khazar, c'est
Khazar,
ça
oui.
Les Khazar. Kamal Shekat, je voudrais commencer par deux versets de la Sourate An-Nisa qui peut-être n'ont aucune relation, mais qui sont significatifs pour ces moments que nous vivons. Le premier, c'est le verset 135 de la Sourate An-Nisa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira.
Commençons par donner une idée justement du verset en termes de traduction. C'est un verset qui exhorte à la stricte justice et justesse, même si cela devait se retourner contre soi-même. Donc nous sommes tenus d'être équitables, même si la chose concernait des proches parents. Et le verset, vers la fin, nous donne une mise en garde, c'est-à-dire que si vous vous détournez de cela, Dieu est parfaitement sachant, connaissant de ce que vous faites.
Al-Qist ?
Al-Qist, c'est l'équité, c'est la justice.
Est-ce que le monde pratique l'équité en ce moment même ?
Non, pas du tout. Ce que pratique le monde, ce qu'on appelle injustement la communauté internationale, parce que les plus puissants de ce monde se sont accordés ce titre d'être humain et ont destitué une partie de la planète de ce titre d'être humain. Il n'y a que l'homme blanc ou de race blanche européen, judéo-chrétien. Bon, judéo-chrétien, c'est un non-sens parfait.
Oui. Avoir les travaux de Sophie Bessis, qui a beaucoup travaillé sur cette fameuse judéo-chrétienté.
Oui, qui n'a jamais existé.
Oui.
Actuellement, ce qui se passe, c'est que ces puissants du monde qui se sont affublés de cette appellation de communauté internationale et qui, de ce fait, ont destitué la majeure partie de cette planète, de cette humanité, de leur titre d'être humain, il n'y a qu'eux qui sont dans l'humanité, Ce qu'ils sont en train de pratiquer, où ils sont beaucoup plus dans ce que Fletcher, David Fletcher, appelait l'éthique de situation. C'est-à-dire qu'ils ont érigé en normes un certain nombre de principes, et il n'y a que ces principes qui prévalent. Le reste, bon, alors c'est quoi la justice ? La justice, c'est ce qui va dans le sens de mes intérêts. Si ça ne va pas dans le sens de mon intérêt, ça n'est plus de la justice. Donc, nous sommes très, très loin.
Qui attaque et puis qui brandit le droit de se défendre.
Oui, bien sûr. De toute manière, vous savez, depuis 2 ans maintenant, ou presque, ils n'ont pas cessé de nous surprendre avec leur réaction, comme on l'a vu tout récemment. Alors, le vendredi, l'Iran a subi des frappes. Aussitôt après, on vous dit, c'est des chefs d'État qui parlent, hein. Oui, Israël a le droit de se défendre. Comment ? On appelle ça une défense préventive.
Oui.
D'accord.
Est-ce que ça existe dans les lois internationales ?
Oui, quand
non,
vous
ça
êtes
n'existe pas.
Si, quand vous avez de votre côté le Talmud, ouais. L'Ancien Testament, vous savez, c'est un plan cadastral. Le sioniste,
Ben-Gurion disait que c'était leur titre de propriété.
Oui, il vient et vous dit, attends, là c'est chez moi. Tu vois pas, c'est écrit ici.
Ils sont en exécution de Sefer Yeshaya.
Vous savez, Sefer Yeshaya,
Isaïe. C'est ce qu'ont dit beaucoup d'observateurs, Kamal Shekar.
Oui, mais le problème c'est que ce même livre d'Esaïe ne peut que se retourner contre eux. Souvenez-vous du 7 octobre, lorsque Lignard, qui leur sert de premier ministre, a cité justement un verset de...
Les êtres de lumière et ceux de l'obscurité.
Oui, le chapitre 60 du livre d'Esaïe, quand ouais. Il l'a cité, le chapitre 60 nous parle de l'actuel Mecque. Et même quand Sion est cité, Sion ne se trouve pas en Palestine. C'est du faux, c'est du pipeau tout court, mais ça sert des intérêts.
Alors pourquoi je vous ai cité ce premier verset de la sourate Nisa, Kamal Shakat ? C'est un sapeur-pompier français qui l'a brandi aux oui. yeux du monde, les exhortant de suivre le Coran, d'être juste, et de suivre l'énoncé de ce verset, d'être témoin de Dieu. Oui. Pourquoi Dieu Spano nous demanderait d'être des témoins pour lui, alors qu'il est le sachant, le voyant, il sait tout ? Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala.
Et c'est ça, aussi relève de l'ordre de cette mission de lieutenance de Dieu sur terre. L'homme est le vicaire de Dieu sur terre. Et à partir de là, si l'homme ne veut pas que le mal s'érige en norme, c'est à lui de faire en sorte que le bien règne. Et il en est de même pour la justice et l'injustice. Le fait que le mal règne en maître signifie que l'homme n'a pas fait assez pour que le bien règne en maître.
Si on est des témoins, est-ce que cela impliquerait une certaine action et responsabilité de notre part ?
Ça engage, bien sûr, ça engage notre responsabilité et ça nous plonge dans une logique de citoyenneté active. On ne peut pas faire la politique de l'autruche. Ah non, je n'ai rien vu, ah non, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne peux rien dire. Non. Ça ne marche pas comme ça.
Kamal Shakat, si vous demandez de nous apporter une analyse ou une lecture de ce qui se passe autour de nous.
Oui.
Écoutez, sur un plan religieux, théologique.
Oui. Alors, certains, malheureusement, pourraient voir en cela une sorte de fatalité. Hein? Dans la mesure où nous sommes dans l'eschatologie.
Oui.
Mais plein pied dans l'eschatologie.
D'ailleurs, on n'arrête pas de citer un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, citait « Halakatul Arab thumma Faris ».
Oui. On va vous dire « oui, c'est... » Voilà, c'est la prédestination même, ceci a été écrit et ceci est en train de se réaliser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand bien même nous serions dans l'eschatologie même, ceci ne nous empêche pas ou ne nous décharge pas d'agir
oui.
dans un sens qui pourrait faire diminuer d'intensité tout ce mal, toute cette tragédie qui nous entoure.
Mais ils réagissent, les sunnites Kamal Shakat, ils n'arrêtent pas de faire cette prière, leur madrib dhalimina bidhalimin, wa khrijna minhum salimin.
Ce ne sont pas des sunnites, ceux qui font ça. C'est des carpettes, c'est des marchepieds pour le sionisme international. Écoutez, lisez le Coran. Roulibatir romo. Quand vous lisez l'exégèse, quand Rome a été vaincue par les Perses, alors Rome, c'est les Byzantins, ce sont ceux qui étaient censés représenter le christianisme officiel, du moins à l'époque. Et les Perses, c'était la religion primordiale qu'on suppose être celle de Zoroastre, et qui utilisait le feu comme une sorte d'oracle, a fini par adorer le feu. Et donc, la manière dont réfléchissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Romains,
partisans de Jésus-Christ, alayhi salam, étaient plus proches de la vérité, plus proches des musulmans, que ne l'étaient les Perses. Et donc, cette défaite l'a affligé. Et dans ce Coran, le verset a été cité devant les Mécois polythéistes, il est parvenu aux Byzantins, et c'était là un gage d'authenticité du message que véhiculait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a annoncé une chose qui allait se réaliser, qui s'est réalisée moins d'une dizaine d'années plus tard. Donc, moi, je me mets dans cette logique. Le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, choisissait toujours le moindre mal. Il choisissait entre deux camps celui qui était le plus proche de la doctrine même de l'islam. Et là, nous sommes face à un conflit qui engage des ennemis déclarés de l'humanité tout entière, et des gens, des musulmans, qu'on le veuille ou non, avec lesquels nous avons quelques divergences. Des divergences qui ne font pas d'eux des mécréants. Oui. Attention, même quand nous parlons du chiisme du haut décimen, Shia al-Ithnay Ishriya, nous ne sommes pas dans Shia al-Ghurabiya ou bien Shia al-Saba'iya qui a divinisé carrément Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajha. Nous sommes dans une forme de chiisme dont il y a un certain nombre de principes, nous ne pouvons pas les accepter, ils sont inacceptables. Mais sur le plan doctrinal, ça ne fait pas de ces gens-là des non-musulmans. Ça ne les sort pas du giron de l'islam. Donc franchement, moi, quand je vois des gens dire « Allahumma drib bid-dhalimin bid-dhalimin », alors qu'eux-mêmes sont des vassaux à des gens qui sont encore plus iniques envers tout l'islam, tout le monde de l'islam, que ne le sont ces chiites, je suis désolé. Non, là, normalement, on devrait dire « Allahumma saddid ramyahum ». C'est ça qui prévaut. Moi, je suis outré quand je vois des dignitaires européens, de l'Union européenne, de je ne sais quoi, de l'OTAN, mais alors dire ouvertement, afficher ouvertement leur position. Ouais. Et puis, nous, certains vont cacher dissimuler leur réelle position parce qu'ils ont peur de ne pas avoir un visa. D'autres, même sur les réseaux sociaux, ne font aucun commentaire parce que voilà, attention, ils surveillent tout, Big Brother, he's watching you, comme vous dites. Donc, je suis désolé, vous savez, quand il y a une guerre ouverte entre le bien et le mal, il n'y a pas lieu d'être neutre. La neutralité ici ne peut être que synonyme d'hypocrisie.
Oui, je pense, Kamel Chakat, qu'à notre époque, le fait de ne pas réagir, ne pas prendre position, c'est déjà une prise de position claire.
Bien sûr, vous êtes du mauvais côté de la barrière.
Oui, ça absolument. S'arrête là. Kamel Chakat, quelqu'un disait que le congrès Campbell Bannerman a réussi son coup.
Oui, ça fait longtemps.
Vu cette guerre idéologique entre les chiites et les sunnites. Et puis, Kamel Chakat, si réellement les chiites étaient... qu'est-ce que je pourrais dire, sur un plan religieux, s'ils étaient dans le faux. Comment l'Algérie, qui s'est alignée sur l'école malékite, une des écoles les plus conformistes, les plus dures...
Elle est assez rigide.
Oui. Comment se fait-il que sur un plan politique, l'Algérie soutient, et c'est peut-être un des rares pays à soutenir l'Iran dans cette guerre contre l'hégémonie judaïque. Hein.
Mais attendez, l'Algérie a soutenu des causes justes, quand bien même, revenez à l'histoire contemporaine, l'Algérie a soutenu des causes justes, quand bien même elles étaient menées par des non-musulmans.
Par des kofars.
Par des chrétiens, par des animistes, mais... La justice, c'est la justice.
Voilà.
Ça nous renvoie à cette citation d'Ibn Taymiyyah. Inna Allah yansuru ad-dawlat al-kafirat al-adila ala ad-dawlat al-muslimat al-dhalima. Qu'on le veuille ou non,
wow.
C'est toujours la justice qui triomphe. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, permettez l'expression, se range toujours du côté du juste. Quand on vous dit taqi da'wat al-madlum, prends garde à la prière d'une personne qui subit une iniquité. Parce que cette prière de l'oppressé, de l'opprimé, il n'y a pas entre elle et Dieu un voile. C'est ça. Donc c'est ça, ça marche comme ça. Il faut toujours se ranger du côté de la justice.
Ceci nous amène, Kamel Chakat, au deuxième verset qui appartient toujours à la sourate Nisa, la sourate des femmes, la quatrième sourate du livre saint. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minina turiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina.
Oui, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés
les
mécréants contre les croyants. Voudriez-vous
donner à Allah une preuve évidente contre vous,
un argument manifeste. Et ça veut dire que le fait de faire cela plaidera contre vous le jour du jugement dernier.
D'accord. Alors, voyons la situation actuelle. Est-ce que nous sommes du côté des croyants ou des mécréants?
Nous ne pouvons que l'espérer. Nous ne pouvons qu'espérer être...
Tous les musulmans d'aujourd'hui, Kemal Chikat?
Vous savez, là, ça me renvoie à... ça ne fait pas longtemps que nous l'avions cité. C'est... Souvenez-vous du dialogue qu'il y a eu entre Ibrahim, alayhi salam, et son fils Ismaël. Quand il lui dit « Niya arafil manam yana yadbahouk »« Je me vois, mon fils, en songe, en train de t'immoler. »« Fandur madatara, vois en cela ce que tu pourrais voir. » Et au fils de... Fais ce qui t'est commandé de faire, tu me trouveras, si Dieu veut, du nombre des endurants. Nous ne pouvons qu'espérer être du nombre des justes. Nous ne pouvons que l'espérer. C'est-à-dire que dès lors où la bonne option se profile, que l'on soit convaincu justement de cette option, il faut la suivre et ça s'arrête là. Mais en tout cas, vous savez, nous sommes dans une situation où il est très très éloigné de ne pas pouvoir faire la part des choses. Là, les choses sont un peu plus claires, un peu plus évidentes. Et plus, maintenant, il n'y a plus rien à analyser. Les jeux sont faits, quoi. Les dés sont jetés.
Je voudrais, Kemal Chikat, vous faire réagir sur des propos d'un grand érudit que vous connaissez, mais je omettrai de le citer dans ce cas-là. Alors, le monde a été témoin d'au moins 5 siècles de barbarie émanant d'une civilisation occidentale blanche et chrétienne, mais qui arrive à bout de ses limites. Alors, cet érudit a décrit et a classé les différentes époques, surtout ces 5 siècles, oui, selon l'hégémonie de leur nation ou des nations du moment. Alors, il y a eu la Pax Britannica, est suivie la Pax Americana, et nous entrons plein pied dans la Pax Judaica, juste avant l'avènement de Akhiru Zaman, avec le véritable règne de l'islam à travers une personnalité qui fera le consensus pour toutes les religions, et notamment celles dites monothéistes. Et donc,
le Mahdi al-Muntadar.
Non, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Qui se rangera donc derrière le Mahdi, oui, et puis qui continuera son règne à travers les lois de l'islam,
oui,
telles qu'amenées par Sidna Mohammed alayhi salam. Qu'en pensez-vous, Kemal Chikat? Pax Britannica, Pax Americana et Pax Judaica.
Oui, oui, vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé. Bon, quoique pour la Pax Judaica, ça n'a
avec
pas...
Avec le Dajjal qui, oui, certainement ne durera pas longtemps.
Oui, ça n'a pas été... mentionné avec autant d'évidence et de précision que pour les deux paix qui en soi-disant.
Mais on parle de Kemal Chikat de la déchéance du gendarme du monde.
Oui, vous savez, le Coran le dit, et le Coran insiste sur le fait que même les nations ont une durée de vie qui est tributaire du degré de civilisation qui anime les peuples, justement, de ces nations. Likulli ummatin ajal. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Il faut lire l'histoire, la décadence de Rome, qui a valu aux Romains de disparaître. La Grèce, avec toutes ces déviations, ce qui lui a valu, justement, de disparaître. Et donc, nous sommes dans ce que nos savants appellent sunanullah al-kawniya. C'est les lois immuables de Dieu qui font que si vous êtes sur une trajectoire qui est conforme à ce que dicte l'humanité, c'est bon pour vous. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez que disparaître.
Oui,
ça marche comme ça.
C'est une des lois.
Oui, et Dieu est un peu plus juste à ce sujet. C'est-à-dire que Dieu donne autant à ceux qui croient en lui qu'à ceux qui ne croient pas en lui. Et puis, les dons de Dieu n'ont jamais été, on va dire, obstrués vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils arrivent à quiconque agit pour mériter ces dons de Dieu. Et ça marche comme ça. La nature a horreur du vide. Vous laissez une place vide, il y a quelqu'un d'autre qui va venir l'occuper. Voilà, c'est des règles. Soit vous vous y conformez, soit vous disparaissez.
Merci de nous retrouver dans Au cœur de l'islam. Kamal Shekat, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit Hadithu anni walaw aya wa balighu an bani Israël wa la haraj, et c'est ce que nous essayons de faire à chaque numéro de Au cœur de l'islam.
Oui.
Et ma foi, nous sommes en plein cœur de Fiqh al-Waqi'a, Kamal Shekat.
Absolument.
Alors, avec les derniers développements de la politique et de la géopolitique, j'ai peur de vous dire quelle devrait être l'attitude du musulman face à ces épreuves de peut-être la fin des temps.
Oui.
Comment la salat, nous sommes justement en plein dans l'explication du Mukhtasar al-Ibadat de
Abdurrahman al-Akhdari, rahmatullahi
alayhi. Comment la prière devrait consolider et renforcer notre foi à cette époque-ci de notre vie, de notre vie, de l'humanité, de l'histoire de la Terre.
Absolument. Écoutez, si nous ne sommes pas conformes à ce qui est souhaité, à ce qui est attendu de cette pratique de la prière, eh bien cette prière ne nous servira absolument à rien. Et si nous nous sommes attelés à étudier ce petit opuscule, c'est tout simplement parce que l'histoire se refait et parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qui a prévalu pour les premiers musulmans et qui a fait en sorte qu'ils réussissent devrait prévaloir aussi pour nous, ou tout autant pour nous. Et c'est pour cela que nous avons décidé, dans le sillage de ce qui a été entrepris par Abu Hamid al-Ghazali avec son fameux livre « La revivification des sciences de la religion », il est revenu aux essentiels, ou à l'essentiel, en donnant de l'âme à ce qui a été la pratique religieuse. Et ma foi, nous nous sommes dit que peut-être que si nous revenions réellement et à l'essentiel de cette religion, c'est-à-dire la prière, nous ne pourrions qu'aller dans le bon sens.
Et c'est voilà. À juste raison que les savants disent que « man lam yaqra al-ihya falaysa min al-ihya ».
Absolument. Mm. Et justement, le problème, c'est que ceux qui ont pu dominer les esprits, surtout des faibles, à l'heure actuelle et depuis bientôt 3 ou 4 décennies, ont tout fait pour que personne n'étudie l'Ihya.
Ni tout autre livre bien d'ailleurs, sûr, oui, ni même fallait, le livre faut, saint de Dieu.
Oui, bien sûr, il fallait tout simplement étudier les flyers qui nous venaient du Hijaz.
Ouais, ça suffit amplement, ou bien les posts de Facebook.
Oui.
Un savant dont j'ai oublié le nom disait « Dinuka ala qadari salatika Kamal Shekat ». Que devrions-nous comprendre?
Ça veut dire que plus vous êtes dans l'esprit même ou dans l'âme, le cœur de la prière, plus votre religion ou religiosité aura de la consistance.
D'accord.
Ça se mesure à cela.
Bien.
D'ailleurs, nous avons ce fameux hadith, qila fihi daf, donc il y a, dans sa chaîne de transmission, il y a quelques imperfections, quelques vices. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Quand vous voyez quelqu'un aller souvent à la mosquée, témoignez en sa faveur d'une bonne foi. Ce hadith concerne les bonnes œuvres. هو حديث في فضائل الأعمال. Et même quand on a dans ce genre de hadith quelques faiblesses en termes de transmission, on peut utiliser le hadith comme argument. Et donc ce hadith va dans le sens de cette citation que vous venez de citer.
La prière Kamal Shekat, bien sûr, tous les rendez-vous du musulman avec Dieu Subhanahu, depuis Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Isha.
Absolument. Les 5 prières.
Parler des prières obligatoires.
Oui.
Alors, Kamal Shekat, on nous a toujours appris que ceux qui ne se réveillent pas pour la Salat al-Fajr, Satan a uriné
dans leurs oreilles.
Dans leurs oreilles, exactement. Al-bal
shaytan ufi udune. Bon, c'est une métaphore.
Oui.
C'est une métaphore. Le diable le ferait-il? Oui. Je pense qu'il est en mesure de le faire, ou il aimerait bien le faire, tout simplement. Prenez la métaphore dans tous ses aspects et puis
d'accord.
Essayez de ne pas servir d'urinoir à Iblis, tout simplement.
Aïe, 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 c'est affreux. Comme Kamal Shekat, dans un des hadiths du prophète, Sidna Mohammed a.s. nous dit « Rak'at al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha ».
Oui, mais attendez, mettons-nous d'accord sur une
d'accord.
chose. Alors, quand il dit ici « Rak'at al-fajr », ça peut sous-entendre les deux unités de prière, rak'atayn, juste après l'adhan tani, là où il est dit salatu khayrun min an-nawm, parce que le premier, il est facultatif. Il y a une confusion entre salat al-fajr, la prière de l'aube, et salat subh, qui est la prière du matin. D'accord.
Et on continue d'entendre par-ci par-là Kamal Shkat, les gens demandaient quelle est la différence entre Salat al-Fajr et Salat al-Subh, est-ce que c'est la même chose?
Salat al-Subh, c'est une obligation religieuse. Elle s'inscrit dans les 5 prières obligatoires du jour et de la nuit. Et c'est une prière qui est accomplie en congrégation, jama'atan, et l'imam récite à haute voix. D'accord?
Oui.
Salat al-Fajr, ce sont deux génuflexions, rak'atayn, qu'on considère, bon, alors, sunna mu'akkada, certains parlent de rariba. Rariba.
C'est une nafila.
C'est une nafila. C'est une tradition fortement recommandée qui vient au-dessus des prières surérogatoires, telles que celles que vous feriez à n'importe quel moment, comme par exemple au creux de la nuit, qiyam al-layl, et qui est à un degré au-dessous de ce que nous appelons sunna mu'akkada.
D'accord.
D'accord. Ce que nous savons du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, c'est qu'il n'a jamais délaissé salat al-fajr, c'est-à-dire les deux premières génuflexions, celles que l'on accomplit seul et juste après l'adhan tani, le deuxième appel, là où il est dit salatu khayrun minan nawm. Et quand vous lisez ces hadiths parlant de salat subh, il faut justement faire la distinction entre les deux, parce qu'il y a très souvent confusion. Maintenant, concernant le statut légal de Salat al-Fajr, c'est une prière qui, si vous la faites, vous comptabilisez des bonnes actions. Si vous ne la faites pas, vous n'avez aucun problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé qu'il rate cette prière pendant le voyage. Et quand il s'est réveillé, bon, alors il a mandaté Bilal al-Habashi pour veiller à ce que la prière se fasse en temps opportun. Et Bilal s'est assoupi. Ils ont raté le moment de cette prière, ils se sont réveillés alors que le soleil était bien bien présent, bien à l'horizon. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément changé de place, disant que ce lieu est pratiquement possédé par le diable.
Ouais.
Donc ils ont quitté le lieu, ils ont accompli cette prière, qada salatahu. Quand on dit qada, ça veut dire que la chose concerne la prière obligatoire. Mais même la prière surérogatoire, rariba, qu'on appelle, nous faisons la distinction en parlant de salat subh, celle qui est obligatoire, et salat al-fajr, celle qui ne l'est pas. Donc même pour cette salat al-fajr, qui n'est pas une obligation, vous pouvez, si vous ne vous réveillez pas au moment indiqué et que vous vous réveillez le matin, c'est-à-dire après que le temps est passé, si vous atteignez Doha, c'est-à-dire le moment où l'on peut commencer à faire des prières surérogatoires, si vous atteignez ce moment, actuellement c'est pratiquement 6h10 du matin ou quelque chose comme ça, donc à partir de ce moment, vous pouvez faire cette prière et vous avez le temps, vous pouvez la récupérer jusqu'à Salat Dhuhr Zawal. Pour celle qui est obligatoire, vous, même si vous vous réveillez à 15h, supposons que vous ayez, ben, je sais pas, pour une raison ou une autre, vous avez dormi jusqu'à ce moment-là.
Nous devons l'accomplir.
Vous devez l'accomplir. Par contre, pour Salat al-Fajr, qui est une prière surérogatoire, si vous ne l'avez pas récupérée avant Salat Dhuhr, c'est bon. Vous ne pouvez plus la faire.
Mais qu'en sera-t-il de nous, de cette salat? Est-ce que nous avons, savez, dans ces cas-là, commis un péché?
Vous n'avez pas, comme le disent s'il ne fait pas cette prière.
Mais quand c'est répétitif?
Vous ne pouvez pas dire ça, parce que Jumhur ul-Ulama est d'avis que si vous ne faites pas salat al-Fajr, même délibérément, ceci ne vous comptabilisera aucun péché. Nous partons sur ce principe. Mais nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, ne l'a jamais délaissé. Donc, une bonne appartenance à l'islam ferait que vous accomplissiez cette prière. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que quand vous lisez les manuels de fiqh que nous connaissons, tous les livres qui sont à la portée des musulmans, je ne sais pas moi, vous prenez n'importe qui, quelqu'un comme l'imam Nawawi, là nous sommes dans ce que nous appelons le fiqh al-muqaran, c'est-à-dire une étude du droit canon et une étude comparative entre toutes les écoles. Lui, il dit « wa sunnatul fajri mujma'un ala kawniha sunnatun ». C'est une tradition. Certains disent qu'elle est obligatoire et se basent sur une lecture des hadiths qui est la leur. D'autres, la majorité, disent que non. Les malikites disent « rariba », c'est-à-dire que nous sommes dans une action qui est purement surérogatoire. Si quelqu'un ne fait pas ce qui est surérogatoire, il ne supporte aucun péché, tout simplement. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ces données-là, vous allez les retrouver dans tous les livres qui font référence. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des hurluberlus, des illuminés comme ça qui viennent sur la toile et qui vous disent « Voilà, maintenant, nous avons su que les fuqaha, ils ont toujours menti. Salat al-fajr, ce n'est pas une obligation. » Mais attends, d'où est-ce que tu nous sors ça? Tous les grands savants de cette nation ont dit que ce n'était pas une obligation. Et toi, tu viens au 21e siècle pour balancer à tout le monde que, comme si tu avais découvert la roue, voilà, ils nous ont menti. Personne n'a menti. Mais ce qui est sûr, c'est que une bonne conformité à la religion fait que vous accomplissiez les obligations religieuses et que vous essayez de parfaire votre pratique religieuse par l'accomplissement de ce qui a un caractère surérogatoire, nafila. Ce sont les nawafil qui garantissent le fait que vous accomplissiez bien les obligations. Si les nawafil partent, vous êtes uniquement dans l'obligatoire et cet obligatoire peut aussi sauter. Tout simplement.
Mais même si c'est le cas comme à Shakat, il nous faudra nous réveiller pour Salat Sobh, même si Salat al-Fajr n'est pas obligatoire.
Absolument.
Et à ce propos, il y a nombreux hadiths comme à Shakat. Dans l'un de ces hadiths où le prophète alayhi salatu wasalam évoque Salat al-Fajr, il y a celui où il parle des hypocrites. Laysa salatun athqal 'ala al-munafiqina min al-fajr wa al-isha.
Oui, absolument. Donc, là, écoutez, quand les hadiths vous parlent de Salat al-Fajr, tous ces hadiths parlent des deux prières. Celle qui a un caractère obligatoire et celle qui la précède et qui a un caractère surérogatoire. C'est clair, il faut partir comme ça, dans ce sens. Quand vous lisez les interprétations des savants concernant autant les hadiths que la pratique elle-même telle qu'elle revient dans les grands manuels de fiqh al-ibadat, donc le droit cultuel, vous allez vous rendre compte de cela.
Kemal Shakat, dans la sourate al-Baqarah, si ma mémoire est bonne, Dieu subhanahu dit « Hafidhu ala salawat wa salat al-busta ». Quelle est cette salat al-busta?
Certains disent que c'est salat al-asr.
Oui.
Mais normalement...
Mais si nous partons du principe que la journée commence après le maghrib.
Oui, d'autres disent que c'est salat al-fajr. D'autres exégètes sont d'avis que quand le mot « awsat »,« wasat » ou bien « wusta », comme c'est le cas de Ashab al-Jannah, qala awsatuhum alam aqul lakum law la tusabbihun. C'est des frères et qala awsatuhum, beaucoup pourraient comprendre que c'est le cadet, celui qui vient après l'aîné, donc qui est au-dessus du benjamin. Et non, awsatuhum, c'est-à-dire celui d'entre eux qui avait le meilleur comportement.
Oh là là.
Et c'est pour cela que pour Salat al-Wusta, certains exégètes sont d'avis que voilà, il faut faire en sorte que la prière soit aussi conforme dans toute sa dimension à ce qui est souhaité en religion que possible. Donc Salat al-Wusta, c'est la prière, on va dire, exemplaire en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas les autres interprétations de ce même verset. D'autant plus que nous avons des hadiths dans ce sens.
Alors, il y a un Égyptien qui fait dans l'exégèse,
oui,
qui est sorti il y a quelques semaines pour dire que Salat al-Fajr n'est pas une obligation, ou même si elle l'était, nous ne sommes pas obligés de nous réveiller à cette heure-là pour l'accomplir. Ben, dès qu'on se réveille, on pourrait la rattraper et le tour est joué.
Oui, bon, enfin, écoutez, c'est ce que je disais à l'instant. Comme ça, nous avons maintenant des gens qui viennent à tout moment nous pendre ce qu'ils veulent. Et on a l'impression qu'ils essayent de faire comprendre aux gens qu'ils sont de parfaits illuminés, qu'ils ont découvert la vérité vraie. Et le problème, c'est qu'ils font cela à dessein.
Pourquoi Salat al-Fajr, justement,
c'est-à-dire que, à mon sens, hein, le but, c'est de jeter le discrédit sur les juristes musulmans. Nous ne cessons de le voir absolument.
Ils sont dans le tort, bien sûr.
Oui, bien sûr. Non, les fuqaha, ils ont menti, les fuqaha, ils ont fait ci, comme le font beaucoup, même ici en Algérie. Moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt de débiter pareille sornette. L'accomplissement de Salat al-Fajr en temps opportun fait partie d'une hygiène de vie, qu'on le veuille ou non. Salat ou khayrun min an-nawm. La science l'a dûment prouvé, nous en avons déjà parlé, et ma foi, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui respecterait son corps, quelqu'un qui aurait du respect aussi pour le rythme nictéméral qui rythme sa vie, une personne sérieuse ne pourrait que se réveiller à ce moment-là pour faire sa prière. Même si vous n'êtes pas musulman, même quand on est athée, c'est le moment privilégié pour se réveiller, avoir, faire son bol d'air, faire son yoga, faire son, son premier entraînement. Je suis désolé, c'est comme ça que...
Il y en a qui se réveillent justement à cette heure-là pour ne pas rater l'heure dorée.
Oui, au soleil. Non, mais c'est un moment où vous allez vraiment ressourcer votre corps, le régénérer en quelque sorte.
Et puis on dit qu'il y a des senteurs.
Pour peu que vous vous livriez à des séances de respiration profonde.
Ça n'a aucune considération avec la religion, juste sur un plan santé.
Santé. Maintenant, pour la religion, il y a pour l'adhan de Salat Subh et Salat al-Fajr, il y a cette formule qui dit Salat khayrun min al-naum. Et nous l'avons déjà expliqué. Souvenez-vous, quand on a commencé à parler de ce petit opuscule de Mukhtasar al-Ibadat, je vous disais, nous sommes dans une logique qui fait que, même si nous n'étions pas musulmans, il aurait été bénéfique pour nous de pratiquer cette prière, même si Dieu n'existait pas. Avoir des moments comme ça, où l'on favorise la spiritualité, ou bien cette fibre spirituelle, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour notre physique et pour notre mental. Ma foi, des gens qui viendraient dire au nom de la religion que voilà, non, même si vous ne vous réveillez pas, ça n'a pas de problème. Ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui veulent déstructurer la société et même l'humanité dans la mesure où une société sérieuse est une société qui se lève tôt le matin pour aller travailler, pour vivre pleinement la journée et qui le soir se couche très tôt.
Voilà.
Ça marche comme ça, normalement.
Ouais. Quand vous dormez à 2h, 2h30, 3h, comment vous réveillez pour le fait de la presse
oui.
là comme
vous avez, maintenant, là, ça a été dûment prouvé. Hein. La science nous le dit. Si vous vous couchez le soir vers 21h, de 21h jusqu'à minuit, 1h du matin, pour chaque heure de sommeil, c'est l'équivalent de 3h, pratiquement. Passer ce délai, vous n'allez pas récupérer, que vous le vouliez ou non. C'est pratiquement impossible. Et normalement, on devrait aller au lit juste après Salat al-Isha, surtout en été, et nous réveiller.
Déjà, arrêter de manger 3 heures avant d'aller au lit.
Au moins. Normalement, une bonne hygiène de vie ferait que vous preniez votre dîner vers 19h, 19h30. Bien sûr, en tant qu'Algérien, je n'ai pas toujours respecté cela, mais depuis que j'ai commencé à le respecter, j'en ressens les bénéfices sur mon physique déjà.
C'est un tout est imbriqué, Kamal Chakat.
Absolument. Hein. Maintenant, quand vous avez des gens qui viennent vous dire, vous balancer des énormités de ce type, non, vous n'êtes pas tenu de vous réveiller, vous n'êtes pas tenu de faire cette prière à l'heure, etc. Je suis désolé, je me demande comment ces gens-là peuvent réfléchir. En tout cas,
Kamal Chakat, pardon de vous couper la parole. Cette intention, peut-être nous ne le savons pas. Hein. Dieu est seul savant, c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans les cœurs de quelques-uns. Mais de toute façon, ça va avec les propos d'une certaine Golda Meir, qui parlait de Salat al-Fajr et
Absolument.
De l'implication de Salat al-Fajr sur notre engagement à la fin des temps, finalement, Kamal
Absolument.
Chakat.
D'ailleurs, on lui a dit une fois que ces musulmans allaient un jour reprendre le dessus, se réveiller. Elle a dit, bon, tant qu'ils ne se réveilleront pas en groupe pour Salat al-Fajr, comme ils avaient l'habitude de le faire, nous n'avons absolument rien à craindre d'eux. Donc, et puis même ces juifs qui vont à la guerre, ils le font comme le faisait le messager de Dieu, alayhi salatu salam. Il n'y avait pas d'attaque durant la nuit, la chose commençait à l'aube. C'est-à-dire que même l'ennemi, on lui donne un répit pendant la nuit. Vous savez, quand on revient à tout ce qui concerne l'hygiène de vie, abstraction faite de la prière et des actes de l'activité cultuelle, en termes d'hygiène de vie, quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous parle, par exemple, dans notre manière de nous alimenter, il faut laisser un tiers de l'estomac pour l'eau, un tiers pour le manger et un tiers pour l'air. Il y a, au Japon, il y a une île ou une localité où les gens vivent en moyenne 120 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le hara-ashibu. Ça consiste tout simplement à se lever de table en n'étant pas rassasié. Tout simplement. C'est incroyable. Le problème avec notre manière d'aborder le culte, je vous le disais il n'y a pas longtemps, nous ne pratiquons pas l'islam, nous le consommons. C'est de la consommation pure et bestiale par moment même. Tout cela nous renvoie généralement à une hygiène de vie, aussi à une vie en société qui nous met en symbiose avec les gens, en harmonie avec notre entourage. Donc quand nous parlons de la prière, quand nous parlons de notre manière de nous vêtir, de nous alimenter, de dormir, de nous reposer, d'aller vaquer à nos occupations, nous sommes dans un tout. Et voilà maintenant cette religion, où nous la prenons dans sa globalité, où nous la rejetons dans sa globalité. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ont décidé d'être conformes aux préceptes de la religion, s'ils le font réellement, s'ils le font bien, s'ils le font intelligemment, ces gens-là ne pourraient qu'être en symbiose avec la nature.
Ouais, parce que l'islam, c'est un tout, c'est un ensemble de prescriptions. Il y a un dahir et un batin.
Oui, moi j'ai l'habitude de parler de débordement social, voilà. ou bien d'implication ou d'impact social sur l'activité religieuse elle-même. Même le fatwa, les avis des grands savants de l'islam, elles vont dans ce sens. Vous avez délibérément rompu le jeûne pendant le mois de Ramadan. Il y a une expiation à faire. L'imam Malik était d'avis que, voilà, dans les mesures expiatoires qui ont toujours prévalu, à savoir affranchir un esclave, l'esclavage n'existe plus, donc il reste les deux autres mesures. L'une d'elles consiste à jeûner 2 mois consécutifs. La troisième consiste à nourrir 60 nécessiteux. L'imam Malik va directement à la troisième mesure, qui consiste à nourrir 60 nécessiteux, parce que d'une part, vous allez expier votre faute, mais d'une autre part, vous allez apporter un bien à votre entourage. Et cet esprit va dans le sens même du verset du parjure, qui consiste, après un parjure, à affranchir un esclave, à vêtir ou nourrir 10 pauvres, 10 nécessiteux. Si on ne trouve pas, on va jeûner 3 jours consécutifs. C'est-à-dire que même quand je dois me repentir à Dieu, dans mon retour à Dieu, dans ce retour que j'opère, s'il y a lieu d'apporter un bien à autrui, eh bien, il faut le faire. Ce qui fait que la religion doit obligatoirement avoir un impact sur l'entourage qui est le mien. C'est ce qui est souhaité en religion. Ce n'est pas le fait d'être braqué dans son activité cultuelle, et d'être de vivre en vase clos. C'est faux. Man yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun mimman la yukhalituhum wa la yasbir.
C'est plus méritoire.
Il faut se mêler aux gens, il faut être patient avec eux, endurant. Ça vaut mieux que de ne pas le faire. Et c'est ça, la vie, c'est ça.
Kamashakat, il y a une phrase que vous répétez assez souvent, c'est que si notre prière, si donc notre office ne fait pas de nous de bons citoyens, c'est sûr qu'il y a des choses à revoir.
Absolument. Et malheureusement, là, nous sommes dans cette problématique. Dans nos mosquées, par exemple, vous allez vous rendre compte que le vendredi, les gens, il y en a qui habitent à 1 kilomètre de la mosquée, mais qui vont à la mosquée en véhicule, ce qui est un comportement à la base qui indique ou qui dénote une incivilité sans borne, dans la mesure où vous polluez plus, vous faites, je ne sais pas, vous êtes en train de consommer, vous êtes un tube digestif, pas plus ni moins. Et puis il arrive à proximité de la mosquée, il va parquer son véhicule là où il trouve de la place. il obstrue une voie de garage, l'entrée d'une maison, mais ça ne
autant d'incivilités,
oui,
qui nuisent à l'image de l'islam et des musulmans.
Et quand vous lui parlez, il vous dit oui, mais je suis venu pour faire ma prière. Et là, vous savez,
donc là, tout est permis.
Le problème, c'est que moi-même, il y a peut-être une quinzaine de jours, un vendredi, je vois un véhicule au moment de partir, je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez le droit de parquer votre véhicule comme ça? Vous obstruez une voie de garage. Il y aurait eu une urgence, on n'aurait pas pu sortir. Il m'a dit, oui, il m'a reconnu, il me dit, Cheikh, Allah ghalib, dites n'salli. Comment ça, Allah ghalib, subhanallah al-adim?
C'est comme ceux qui disent, nous sommes chez Allah al-Mukhtar, on a le droit de tout faire. Hein?
Absolument, nous sommes dans la même logique. Je suis meilleur que vous et nous avons cette frange des mini-qamis, mini-cerveaux, qui vous diront, nous sommes le groupe du salut. Oui, c'est comme Sha'abullah al-Mukhtar. Et ça fait que leur appartenance à l'islam, elle est beaucoup plus conforme au Talmud qu'elle ne l'est au Coran et à la tradition prophétique.
Donc, ce qu'on pourrait comprendre de vos propos, c'est que l'université islamique de Tel Aviv a commencé à tisser ses tentacules et à travailler en profondeur il y a plusieurs décades de cela.
Absolument, elle a même bien réussi dans ce sens.
Réussi, hein?
Oui.
Vous êtes sûr, réussi?
Certain, oui. Certains.
Donc il n'y a plus rien à espérer des musulmans d'aujourd'hui.
Non, je veux dire quand je
on
dis
est dans
la
quête l'arabe donc.
Non, inchallah là, mais okay. mais elle a quand même fait un bon.
Une belle avarie.
Bien sûr.
Eh bien, je vous remercie Kamal Chakat. Merci pour toutes ces connaissances partagées avec nous, avec les auditeurs de Radio Alger Chaîne 3. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de faire un tour du côté des réseaux sociaux, du côté de x.com et nous écrire quelque chose sur au cœur de l'Islam Chaîne 3. Au revoir. Thank you.